Bonjour tout le monde, nous voici en direct du podcast du CSH, le podcast qui traite de tous les sujets qui intéressent les étudiants finissant du cours de démarche d'intégration en sciences humaines. Le thème de notre podcast d'aujourd'hui, c'est un pays bien populaire en Europe, l'Autriche. Puis aujourd'hui, je suis avec Valérie, Maud et Valérie. Bonjour les filles!
Bonjour!
Bonjour!
Vous allez bien?
Et oui, toi?
Oui, merci. Donc, on va parler plus particulièrement des critiques de livres qu'on a lues par rapport à l'économie de l'Autriche, à la psychanalyse qui est née là-bas, à la géographie et à l'histoire. On va aussi faire des chroniques qui concernent la culture et les industries autrichiennes, la biographie de Freud, puis la célèbre famille des Habsbourg. Finalement, on va terminer avec un spécial concernant les attraits touristiques qui sont vraiment populaires en Autriche, comme le château Mirabel, la maison de Freud, les pâtisseries, les petits cafés, le village d'Alstadt et le château de Schönbrunn. Donc, on va commencer par vous faire part de nos critiques concernant les livres qu'on a lus. Pour commencer, Valérie, parle-nous un peu de ton livre qui se nomme « L'Autriche ».
Oui, donc l'Autriche, c'est un livre dans la collection Monde et Voyages des éditions Larousse. Ce livre-là a été publié en 1989. C'est vraiment un livre pour se renseigner sur le pays. Donc il y a vraiment une description du pays, il y a une explication vraiment détaillée à chaque page. Beaucoup d'images, beaucoup de visuels, donc ça l'aide au grand public. Puis aussi, il y a beaucoup de très belles images. Puis ça traite de divers aspects pour englober tout ce qu'on parle de l'Autriche. Dans la quatrième de couverture, il nous montre aussi qu'il y a des titres comme l'Égypte, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Maroc, les États-Unis, que dans le fond, c'est d'autres livres qui sont faits de cette collection-là, de Monde et Voyages, par les éditions Larousse, qui a été fondée par Pierre Larousse.
Puis, donc, le fondateur Pierre Larousse, c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait d'impressionnant?
Oui, Pierre Larousse, en fait, c'est un Français, donc il est né en France en 1817, puis il est décédé en 1875. Pierre Larousse, c'est le fondateur des éditions de Larousse. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très important parce que son dictionnaire, le Petit Larousse, on connaît tous, je pense, pas mal, est un des dictionnaires les plus populaires mondialement. Pierre Larousse est déménagé à Paris pour faire des études en lexicologie. Et puis, c'est là que ça lui a amené à diffuser ses connaissances grammaticales, puis fonder des dictionnaires, des encyclopédies, puis des livres de renseignements sur le voyage.
Parfait. Donc, c'était vraiment un intellectuel, cet
oui,
homme-là.
Vraiment.
Puis maintenant, tu peux nous parler un peu plus du contenu de ton livre. Je te parlais de géographie. Donc, ce serait quoi l'aspect géographique de l'Autriche dans ton livre?
Le premier chapitre comporte vraiment sur la géographie de l'Autriche. Donc, ça explique que l'Autriche est en plein milieu du monde européen, entre l'Allemagne, la République tchèque, l'Hongrie, l'Italie, puis la Suisse. Ce qu'on a tendance à penser, c'est que la Suisse a pas mal toute l'Alpe suisse. Mais c'est faux. L'Autriche comporte une des plus grandes tranches de la chaîne de montagnes alpines. Donc, c'est vraiment un attrait touristique et un attrait géographique très important à l'Autriche. Ensuite, il y a le fleuve du Danube qui passe en plein milieu de l'Autriche. C'est un très grand fleuve européen. Puis, il passe près de la ville de Vienne qui est au sud-est de l'Autriche. Aussi, ça l'expliquait un peu le climat à cause des montagnes très hautes, des hivers très froids. Puis d'un autre côté, il y a l'été qui est quand même assez chaud à cause que le vent est coupé par les chaînes de montagnes alpines.
Puis est-ce qu'il y a beaucoup de précipitations là-bas durant l'année?
C'est ça, ça va en même temps avec les montagnes, comme qu'on a appris un peu dans notre cours de carte du monde. Le versant est a beaucoup plus de précipitations parce que le vent va de ce côté-là. Puis le versant ouest a moins de précipitations. Quand que je parle de versant, c'est des côtés de la montagne alpine.
Donc ça dépend vraiment où on habite en Autriche.
Exactement.
OK. Puis maintenant, ton livre parlait aussi un peu de l'histoire de l'Autriche, je pense. C'est bien ça?
Oui, c'est ça. Le deuxième chapitre, c'était sur l'histoire. Ça l'expliquait un peu la famille des Habsbourg, une très grande famille populaire en Autriche. Rodolphe I de Habsbourg, qui était le premier héréditaire de cette génération de familles royales qui géraient un peu l'État. Puis dans cette famille-là, brièvement, il y a comme deux branches. Il y a l'Albertine, qui a été abolie en 1457, puis la Léopoldine. Il explique l'assassinat de François-Joseph et sa femme après la Deuxième Guerre mondiale, qui est un événement très important pour l'Autriche.
Puis finalement, ça parle aussi de la culture de l'Autriche.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que l'Autriche est un pays riche culturellement, selon ton livre?
Ben c'est ça. Ça explique qu'en peinture, il y a eu l'architecture religieuse, qui était un grand courant artistique en Autriche. Puis ensuite, il y a eu l'âge gothique, donc on voyait divers peintures, des sculptures même. Ça évoque vraiment le temps du cours artistique dans ce temps-là. La musique classique, donc les orchestres, les symphonies, vraiment très important en Autriche. Il y a eu des grands compositeurs comme Léopold Gassmann, ou Vivaldi, comme qu'on connaît,
oui.
Le grand violoniste, c'est que vraiment une richesse culturelle, musicale très importante. Il y a une richesse gastronomique aussi. Ils ont une tendance à avoir un petit repas de rôti de veau avec de la confiture. On n'a pas tendance à faire ça ici au Canada, mais eux, c'est leur coutume. Les fromages, le vin, donc on peut penser proche de la Suisse. Les gâteaux particuliers sont bien reconnus aussi pour ça.
Ouais, je crois que l'Autriche est vraiment reconnue à travers le monde pour les gâteaux.
Oui,
les
vraiment.
Donc, ton livre, est-ce que tu l'as trouvé intéressant?
Oui, généralement, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Les images comblaient bien les pages. Très belles images aussi. Donc, ça a rapporté un côté visuel. Je suis très visuelle, donc j'aimais ça. Savoir que en lisant, j'avais comme l'image qui associait avec le texte. C'est un livre général qui nous renseigne bien. Donc, il n'y a pas des mots trop complexes qui font universitaire, là. Donc, c'est vraiment très bien expliqué.
Puis, est-ce que tu as trouvé des points qui étaient un peu plus critiques ou un peu plus négatifs dans ton livre?
Oui, ben par rapport à moi, je suis moins portée à aimer l'histoire, surtout l'histoire de l'Autriche. Quand je suis rentrée dans le chapitre la famille Habsbourg, là, ouf, ça m'a perdu un petit okay. peu. Donc j'aurais aimé peut-être ça avoir comme un arbre généalogique, peut-être pour montrer les différentes personnes de la famille, au lieu de l'avoir en texte descriptif, là, ça a été un peu mélangeant et long à lire.
Ça aurait été un peu plus clair si ça avait été plus schématique.
Exactement.
OK. Mais merci beaucoup d'avoir partagé ton opinion concernant ton livre.
Ben merci beaucoup.
Et toi, Valérie, tu peux nous parler de ton livre qui se nommait Freud en question?
Ouais. Le livre Freud en question a été écrit par Ginette Pellant. C'est une œuvre qui met en relief toute l'influence de Freud au niveau culturel et social. L'auteur a fait un doctorat en philosophie et est spécialisé dans la pensée freudienne. C'est un essai sur la psychanalyse freudienne.
OK, puis Freud, qu'est-ce qu'il a découvert? Puis quelles sont ses théories qui sont les plus populaires?
Pour comprendre avant ses théories, il faut comprendre que Freud a obtenu un diplôme en neurologie parce qu'il avait un grand désir de comprendre la condition humaine. Après quelques années de métier en tant que neurologue, il a fondé la psychanalyse. Il a entre autres travaillé avec le médecin Joseph Breuer sur l'hypnose, mais c'est aussi avec lui qu'il a fait la découverte, une découverte importante sur la phase préliminaire de la psychanalyse, qui est le procédé cathartique et sur la névrose. Il s'est beaucoup concentré sur la thérapie par la parole avec ses patients, car ça lui permettait de comprendre les associations faites par ses patients lors des thérapies et de mieux les comprendre. C'est à ce moment-là qu'il a donné le nom de son procédé psychanalyse, car il considérait qu'il était mieux pour ses patients d'être plus autonomes face à leurs problèmes, donc d'essayer de les régler par eux-mêmes en faisant des associations libres. Selon lui, si une personne parle de ses problèmes, il devrait être plus capable de comprendre sa situation et ainsi augmenter sa conscience critique. Il a aussi compris que beaucoup de problèmes étaient engendrés par d'ordre sexuel. Il a découvert qu'il y avait beaucoup de viols chez les enfants qui ont été commis par soit les parents ou des proches de la famille. Donc, ça avait aussi des lourdes conséquences sur le développement de l'enfant. Dans sa théorie, l'esprit de l'humain possède trois parties, dont l'inconscient, le préconscient et le conscient. Freud a étudié l'influence d'un chef de foule sur un individu et la masse, car les individus s'identifient aux meneurs de foule et ça joue un rôle clé pour la manipulation d'une foule. Il peut manipuler pour ensuite abuser de son pouvoir, ce qui brime la liberté et l'autonomie des membres de cette foule. Selon lui, pour le suicide, les causes qui sont à l'origine de ces actes sont intimement liées à la structure fondatrice de la personnalité de cette personne. Il considère aussi que cet acte est un meurtre inversé. Pour ce qui est de la sexualité d'une personne apparaît lorsqu'il recherche du plaisir dans l'assouvissement d'un besoin. En plus, il n'avait jamais envisagé l'homosexualité comme une sorte de maladie.
Donc je vois qu'il a vraiment fait des théories par rapport à des sujets qui sont assez tabous, surtout dans ce temps-là. Donc, j'imagine qu'il a dû choquer beaucoup de gens.
Oui, parce que Freud a remis en cause des pratiques médicales faites aux personnes atteintes de maladies mentales dans les asiles psychiatriques parce qu'il trouvait que les traitements infligés se rapportaient davantage à de l'abus sadique que des soins. Par conséquent, en plus de choquer la société avec ses écrits, il se mettait à dos aussi les psychiatres parce qu'il parlait beaucoup de thèmes tabous avec les viols d'enfants.
Ouais, donc c'était beaucoup d'ennemis. Puis, la psychanalyse a l'air vraiment complexe. Elle a dû s'inspirer aussi de beaucoup de disciplines. C'est quoi les disciplines?
Freud a été chercher des idées pour sa théorie dans différentes disciplines comme la philosophie, la littérature, la médecine, la criminologie, le droit, la religion et la politique. Freud s'est beaucoup inspiré des philosophes comme Arthur Schopenhauer pour écrire sa théorie sur l'inconscient et ainsi que le désir qui sont contraints à la raison qui motive le comportement des gens. Il s'est aussi beaucoup inspiré de la littérature littérature, car il a comparé ses premiers cas à des œuvres littéraires. Il a compris rapidement que dans certains genres d'ouvrages, il y avait beaucoup d'explications et de descriptions des problèmes humains. La médecine a aussi beaucoup influencé sa théorie. Il a constaté que certains problèmes mentaux avaient des répercussions sur des problèmes physiques ou le contraire. Pour ce qui touche la criminalité, Freud s'est penché sur l'aspect de la responsabilité criminelle dans le but de voir si la personne a des problèmes psychologiques qui auraient pu mener cette dernière à enfreindre la loi. Selon Freud, les êtres humains ont besoin d'avoir des réponses à leurs questions et d'être rassurés et encadrés. Cependant, il croit que les règles d'une société ne doivent pas être liées à la religion. Pour Freud, l'art permet de voir la dimension de la réalité la plus profonde des artistes dans ses œuvres. C'est une ouverture directe vers leur personnalité, leur créativité et leur point de vue. Pour ce qui a trait à la politique, Freud affirme qu'il y a une relation très proche entre la psychologie individuelle et collective. En plus, les gens sont influencés par la politique, les jugements provisoire, l'opinion, la conduite des autres qui est préconisée par la société.
Puis, est-ce que cet ouvrage t'a permis d'en apprendre sur Freud autant que tu l'aurais voulu? Parce que ça me semble très complet.
Oui, car il parle beaucoup de la vie de Freud, de sa théorie, mais aussi il parle beaucoup des origines de la théorie, d'où qu'il a pris ses informations. Oui, il parle beaucoup de Freud.
Puis, est-ce que tu l'as aimé quand même?
Oui, il était très bien séparé. Il était séparé par chapitre. Chaque chapitre avait une question clé, soit, mettons, sur la philosophie ou sur la littérature, comme pour le complexe d'Œdipe. Je le recommande.
J'ai le goût d'avoir des informations plus particulières.
Ouais.
Au grand public.
Au grand public.
Oui, c'est ça. Parfait. Merci. Puis toi, Maud, maintenant, tu peux nous parler de ton livre qui se nomme L'Histoire de l'Autriche.
En effet, ce livre a été publié par l'historien contemporanéiste, soit Olivier Mélisa, en 1953. Auparavant, Olivier Mélisa, lui, était professeur et maître de stage à l'ESG et il est titulaire d'un DEA d'histoire de la France contemporaine. Olivier Mélisa enseigne la culture ainsi que les sciences humaines à l'École supérieure de gestion à Paris et il est un spécialiste des questions interculturelles. Celui-ci a une carrière très remplie. Il est en effet agrégé d'histoire. C'est un professeur en classe préparatoire au HEC, à Climax ainsi qu'à l'ULB. Les textes d'Olivier Mélisa sont souvent liés à son métier, donc en effet, il va beaucoup parler d'histoire puisque c'est un historien, mais il va souvent aussi aborder des sujets politiques dans ses œuvres.
Donc je vois que c'était un professeur accompli.
Ouais.
Puis de quoi parle son livre exactement?
Dans son livre, Olivier Mélisa montre de façon extrême l'histoire autrichienne qui s'est écrasée par la modernité viennoise. Donc il va parler de l'Autriche à partir du 10e siècle jusqu'à l'époque contemporaine. Et il va faire un enchaînement chronologique du livre à l'aide de dates. Dans le fond, il va vraiment expliquer chaque partie de l'époque de l'Autriche à partir du 10e siècle jusqu'à l'époque contemporaine pour mieux situer le lecteur, pour vraiment comprendre comment l'histoire s'est déroulée. Et Olivier Mélisa ne part pas d'une thèse précise pour parler de l'Autriche. Au contraire, il parle de plusieurs sphères, soit la politique, l'économie, la société, la culture, l'art, etc. Donc, c'est pas juste concentré sur vraiment un livre historique, mais c'est un livre historique complet. Puis son livre comporte 333 pages et il est divisé en 4 parties.
C'est quand même un livre assez volumineux. Donc, de quoi parle chacune des parties du livre en résumé?
La première partie de son livre va parler du 10e siècle jusqu'à l'année 1803 et cette partie va parler des fondements de l'Autriche. Il va donc parler de l'Autriche baroque, la construction politique. Il va aussi élaborer les thèmes sur la contre-révolution de l'Autriche. La deuxième partie de son livre va des années 1804 à 1938. Donc, Olivier Mélisa va élaborer le rôle de la Révolution française dans l'Autriche et il va parler de la double monarchie. Pour sa part, dans la troisième partie, il va parler, dans le fond, du 20e siècle. Il va expliquer une façon dont la modernité est pensée. Donc, Olivier va interpréter comment l'art et la politique sont reliés à la Révolution plastique et à l'architecture. Et la quatrième partie, soit la dernière, parle de l'Autriche contemporaine. Donc, elle va parler des époques 1945 à aujourd'hui et elle va traiter des changements au niveau de la politique ainsi que l'évolution économique de celle-ci.
Est-ce que l'auteur donne des opinions personnelles ou il est plutôt neutre dans son livre?
Le livre n'est pas du tout personnifié, donc l'auteur ne va pas parler au jeu. Tout au long de son livre, celui-ci va raconter l'histoire de l'Autriche sans jamais prendre part. Donc il va donner des dates concrètes que eux sont vérifiables, sont concrètes. C'est vraiment des dates qui sont vérifiables. Donc il va donner des dates sans jamais prendre de parti. Dans tout le livre, l'auteur va vraiment énumérer l'histoire de l'Autriche, comment elle s'est déroulée, sans dire comment comment lui a perçu l'histoire de l'Autriche.
Donc, il est vraiment objectif.
Ouais.
Puis toi, est-ce que tu l'as aimé, ce livre-là?
Le livre d'Olivier Mélisa est très cohérent. Il est facile à suivre. C'est divisé en plusieurs parties. Donc, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Puis en plus, chaque partie du livre, soit les quatre parties, sont divisées, eux, en paragraphes. Donc, c'est facile à suivre parce que chaque partie parle d'un sujet précis. Donc, on peut pas se perdre.
Puis ça, ça perd pas notre attention. C'est bien divisé, là.
Ouais. Puis aussi, à la fin, pour ceux qui sont moins bons en histoire, comme moi, à la toute fin du livre, il va mettre un ordre chronologique de toutes les dates en ordre. Donc, Valérie, toi, tu disais que t'aurais aimé plus de tableaux. Moi, il y en avait.
Il aurait dû coller cette page-là dans mon livre.
Ouais. Puis j'avais aussi, comme tu voulais, un schéma de toute la famille des Habsbourg en ordre chronologique pour savoir qui jouait quel rôle, etc. Donc moi, qui n'ai pas une experte en histoire, j'ai apprécié avoir justement l'arbre puis les dates pour pouvoir me situer où on est rendu, de quoi on parle, etc.
C'est beaucoup plus clair aussi avec ça.
Ouais. Et son livre est vraiment excellent pour apprendre sur l'histoire de l'Autriche. Je sais pas, tu vas pas prendre ce livre-là juste pour le lire, pour avoir une lecture. C'est vraiment si tu t'intéresses concrètement à l'histoire de l'Autriche, parce que c'est vraiment assez dans les dates historiques. Et sinon, c'est pas une histoire.
Parfait, merci. Donc, tu as quand même apprécié en gros le livre, même s'il était un peu complexe.
J'apprécie le livre malgré qu'il y a beaucoup de pages.
C'est bon. Donc moi, pour ma part, mon livre, c'était dans le champ économie et se nomme « Études économiques de l'OCDE, Autriche 2013 ». L'auteur du livre, en fait, c'est l'Organisation de coopération et du développement économique. Cette organisation-là a été créée le 30 septembre 1961 à la suite du succès de l'Organisation européenne de coopération économique. Puis c'est à cause que cette organisation européenne-là a eu le désir d'étendre ses travaux à l'échelle mondiale. Ça a créé la coopération de développement économique. Puis le Canada et les États-Unis se sont joints à eux en 1960. Puis par la suite, d'autres pays s'y sont joints. Aujourd'hui, l'OCDE compte 34 pays membres qui se rencontrent régulièrement afin d'identifier leurs problèmes économiques. Ils en discutent, ils les analysent, puis après ça, ils promouvoient des politiques pour résoudre leurs problèmes. Donc, cette organisation-là publie fréquemment des études économiques puis des statistiques qui concernent principalement ces pays membres. Sa mission, c'est de promouvoir les politiques qui améliorent le bien-être économique et social à travers le monde. Donc, l'étude économique de l'OCDE de l'Autriche 2013 permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble analytique des aspects positifs et des aspects négatifs de l'économie de l'Autriche en 2013, puis de comprendre quelles politiques pourraient améliorer sa situation. En fait, mon texte comprend plusieurs parties. Tout d'abord, ça commence par un résumé qui énonce les principales conclusions, puis les principales recommandations suite à l'analyse de l'économie du pays. Entre autres, dans cette partie de l'ouvrage, l'auteur affirme que l'Autriche se caractérise principalement par des niveaux élevés de bien-être matériel et de qualité de vie, donc que l'Autriche a une très bonne économie, mais que des pressions budgétaires sont apparues après la crise et persistent encore. Et afin de remédier à ces pressions-là, il donne des recommandations détaillées par rapport aux politiques budgétaires et financières, par rapport à la gouvernance publique, au vieillissement de la population, à l'intégration des immigrants, puisque c'est un enjeu de taille en ce moment, à la durabilité environnementale, puis au défi de la mondialisation. Ensuite, le livre est divisé en deux chapitres. Dans le premier chapitre, l'auteur analyse l'économie de l'Autriche par rapport au PIB, puis aux déterminants du bien-être autrichien. En résumé, l'OCDE affirme que l'Autriche a une redistribution importante et efficace des capitaux, puis ça fait en sorte que le PIB par habitant est constamment en croissance, puis que le taux de pauvreté est faible. Donc, les habitants autrichiens ont vraiment un bon niveau de vie. Aussi, l'auteur s'attarde sur certains aspects particuliers qui font en sorte que l'Autriche a un niveau élevé de bien-être. Par exemple, le marché du travail affiche de solides performances, puis les logements sont abordables. Les conditions économiques en matière de santé sont aussi très bonnes. Donc, pour toutes ces raisons, ça fait que les Autrichiens vivent bien. Puis, dans le deuxième chapitre, l'auteur met l'accent sur l'évolution démographique, sur l'équilibre durable entre la vie privée puis le travail, ainsi que sur la durabilité environnementale. L'OCDE affirme que l'évolution démographique pose des problèmes en Autriche parce que les régimes de retraite sont pas assez généreux, puis que des plans d'action devraient être décidés pour améliorer l'égalité des sexes, puis la conciliation famille-travail pour les femmes, puisqu'on note une légère baisse du salaire chez les femmes à comparer aux hommes. Puis une des principales préoccupations de l'auteur par rapport à la durabilité environnementale, c'est que l'Autriche devrait investir plus d'argent dans l'adoption de politiques plus sévères en matière de protection de ses zones rurales, puisque l'Autriche comprend beaucoup, beaucoup de zones rurales qui sont vraiment nécessaires au bon roulement du tourisme là-bas. Puis finalement, le livre se termine sur sur une courte conclusion qui revient sur les recommandations principales de l'OCDE face à l'économie. Puis moi, je trouve que ça a été vraiment un document pertinent et très bien structuré parce que les données contenues dans l'ouvrage sont vérifiables et véridiques. Elles ont été recueillies directement par les sondages puis par des enquêtes menées en Autriche dans différentes sphères économiques par des experts. Donc, toutes les données sont vraiment véridiques. Puis, ils reflètent la population autrichienne. Puis aussi, les statistiques présentées sont vraiment bien compilées à l'aide de tableaux puis de graphiques complexes, ce qui fait en sorte que c'est facile pour nous, les gens normaux ou pas experts en économie, de bien les comprendre. Puis aussi, toutes les données et les analyses sont objectives et clairement expliquées, sont basées sur des faits et des statistiques. Il n'y a vraiment aucun point de vue personnel. Tout est objectif. Donc, ce document est vraiment de nature scientifique puis il est très facile à suivre parce que tous les points à aborder sont disposés en ordre logique. Donc, c'est facile de s'y repérer si on veut trouver une information facilement. Aussi, chaque problème économique démontré par l'auteur est suivi de solutions claires et précises. Donc, si jamais les Autrichiens veulent vraiment avoir des bonnes politiques complètes, ils ont juste à se référer à cet ouvrage-là de l'OCDE. Donc, je trouve vraiment que c'est un document pertinent. Puis, je le recommanderais à n'importe qui veut en savoir davantage sur l'économie autrichienne, sur ses points positifs et sur ses points négatifs.
Puis, c'est ça, comme c'est plaisant aussi, tu as pu trouver ce livre-là sur Internet.
Oui, exact.
Donc, n'importe qui peut aller le rechercher.
Exactement. Pas besoin de faire beaucoup de kilomètres pour aller le louer dans une bibliothèque. C'est en ligne, c'est gratuit. C'est un format PDF, donc tout le monde y a accès très facilement.
Puis je pense qu'ils font plusieurs modèles aussi, plusieurs années, ils reviennent souvent sur leurs données.
Oui, c'est ça, en fait. Par exemple, à l'Autriche, ça commence, je pense, en 1998. Donc aussi, c'est le fun, puisqu'on peut vraiment suivre un pays, puis voir vraiment l'évolution de son économie au travers du temps, des crises économiques, des guerres, etc. Donc vraiment, je le recommanderais aux gens.
Bon, ben tant mieux.
Oui. Donc maintenant que vous en savez un peu plus sur les livres qu'on a lus, on va maintenant vous parler de sujets qui sont un peu plus concret par rapport à l'Autriche. Valérie, tu peux commencer par nous parler plus en détail des membres de la famille Habsbourg.
La famille Habsbourg était d'origine autrichienne. C'était une famille très puissante et riche. Elle a réussi à bâtir deux empires, dont l'Empire autrichien et l'Empire espagnol.
Puis, qui est Rodolphe Ier de Habsbourg?
Rodolphe Ier de Habsbourg fut le premier créateur de la dynastie des Habsbourg et de la maison d'Autriche. En 1273, il a été couronné roi des Romains et de la maison d'Autriche. La population a élu Rodolphe de Habsbourg car il avait de bonnes compétences en matière d'armée et parce qu'il avait une très bonne capacité d'organisation. Il fut couronné roi lorsqu'il était âgé de 55 ans.
Donc, Rodolphe de Habsbourg était un bon guerrier.
Oui.
Ouais. Puis maintenant, qui est Albert Ier de Habsbourg?
Albert Ier de Habsbourg est né en 1250 et est le fils du roi romain Rodolphe Ier de Habsbourg. Il est devenu roi des Romains en 1298 car il a gagné la bataille de Golem en tuant son ennemi en 1298. En 1303, Albert Ier d'Habsbourg prête serment de vassalité au pape. En plus, il a permis à la famille des Habsbourg d'acquérir des territoires importants lors de son règne et de les consolider. Puis, il est mort en 1308.
D'accord. Puis, par la suite, qui est Frédéric V?
Frédéric V est né en 1415 en Autriche. C'est le fils d'Ernest d'Autriche. Il hérita toutes les possessions de la famille des Habsbourg après la mort de son père. Lors de son élection en 1440, il a pris le nom de Frédéric III. Il a dû s'écarter des affaires germaniques à cause de la révolte de la noblesse en Autriche et des conflits avec le prince allemand. Au cours de son règne, il fit prendre une partie de son territoire en Autriche, ce qui lui a valu une des humiliations, mais sa plus grande réussite a été le mariage de son fils Maximilien, car ce mariage a permis d'acquérir une partie de la Bourgogne et ainsi augmenter la puissance de la famille.
D'accord. Puis, qui est Maximilien Ier?
Maximilien Ier est le fils de Frédéric V. Il s'est marié avec Marie de Bourgogne, la fille de Charles le Téméraire, et ils ont eu un seul enfant, qui est Philippe le Beau. Il devint empereur romain germanique en 1483. Après la mort de sa femme, il se marie avec la fille du duc de Milan, ce qui lui a permis d'acquérir du pouvoir en Italie. Maximilien a fait une grande réforme constitutionnelle avec son empire. Il a permis l'amélioration des armes pour l'armée et de son organisation en Allemagne.
Donc, à date, tous les personnages dont tu parles sont vraiment intéressés par l'armée puis le combat.
Oui, ben en fait, j'ai pris les principaux, ouais, là, ceux qui ont vraiment fait des changements au niveau de la famille.
D'accord. Puis, peux-tu nous parler de Charles Quint?
Charles Quint est le fils aîné de Philippe le Beau. Il est devenu empereur germanique. Lorsque son père est mort, il a hérité de l'empire l'Empire d'Habsbourg et de la couronne d'Espagne, ce qui lui conférait une très grande puissance. Par contre, tout ce territoire lui conférait une grande puissance, mais aussi une grande faiblesse, ce qui causa la perte de certains territoires.
D'accord. Puis, est-ce que tu as d'autres informations sur d'autres membres de cette famille?
Oui. J'ai aussi toute la branche des Habsbourg-Lorraine.
Ok, d'accord.
Marie-Thérèse est l'archiduchesse d'Autriche, fille de l'empereur germanique. À la mort de son père, elle a dû lutter pour garder sa place.
Puis maintenant, est-ce que tu as des informations sur d'autres membres de cette grande famille?
Oui, sur la famille des Habsbourg-Lorraine. Tous ceux que j'ai parlé avant faisaient partie de la branche de la famille des Habsbourg d'Autriche. Il y avait Charles VI. Il devient empereur germanique en 1711 jusqu'en 1740. Il a réussi à prendre possession de certains territoires qui avaient été perdus, comme les Pays-Bas, certains territoires en Italie. Charles VI a eu seulement un enfant qui était une fille, donc ce qui rendait sa tâche plus difficile d'assurer le trône, parce que les femmes n'avaient pas le droit au trône en Autriche. Il a laissé à sa fille une armée impériale faible et des finances faibles, donc ce qui n'a pas aidé Marie-Thérèse. Donc Marie-Thérèse est la fille de Charles VI. Elle a dû lutter pour garder sa place, car beaucoup de personnes voulaient prendre son trône et détruire la dynastie des Habsbourg. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience puis pas beaucoup d'argent, donc il a fallu qu'elle fasse des choix intelligents. En 1745, elle fut élue impératrice de l'Empire germanique avec son mari François de Lorraine. Et lorsqu'elle a eu son trône, elle a décidé d'entreprendre une réforme. Après son règne, elle a laissé à son successeur de la richesse. Donc, elle a vraiment été une bonne impératrice.
C'est ça, même si c'était une femme, c'était plus difficile pour elle. Elle a réussi quand même à faire des belles choses.
Oui, puis okay. Elle a vraiment augmenté le pouvoir de l'Autriche. Elle a fait beaucoup de réformes pour que ça soit mieux dirigé.
Bon, tant mieux.
Il y a Charles Ier qui fut le dernier empereur à régner, car en 1918, la monarchie d'Autriche s'effondre, donc il n'y avait plus de monarchie. Ça a été le dernier empereur.
Ok, donc depuis ce temps-là, il n'y a plus de monarchie en Autriche, c'est terminé.
Ouais, c'est ça.
Ok, merci pour ces informations intéressantes. Maintenant, Valérie, toi, tu as fait une recherche sur Freud, donc tu peux m'expliquer généralement qui est Freud?
Freud, c'est une grande question. Freud, c'est un grand personnage dans le monde des sciences humaines. Sigmund Freud est né le 6 mai 1856 à Freiburg. Désolée de ma traduction autrichienne.
On parle pas allemand.
Donc, Freud est né dans une famille juive, donc dans cette ville-là de Freiburg. Il a vécu 83 ans, donc il est décédé en 1939.
Quand même assez vieux.
Ouais, quand même, il a eu une belle vie. En fait, son enfance était plutôt médiocre. Il a été beaucoup rejeté à cause qu'il était d'une famille allemande juive. Et puis, les persécutions nazies dans ce temps-là étaient beaucoup très présentes. Donc, sa famille et lui ont dû déménager à Vienne, donc dans une autre ville autrichienne, un peu plus au sud-est, comme que j'avais mentionné au début du podcast.
Oui.
Donc, généralement, Freud, dans sa vie, il a été un père de 5 enfants. Il a eu une femme, il s'est marié avec sa femme à 40 ans, avec Martha Bernet. Puis c'est ça, Freud était quand même discret dans les détails de son enfance. Il y a pas beaucoup d'ouvrages qui expliquent vraiment la biographie infantile de Freud, à cause que sûrement qu'on pense, vu qu'il était juif, il a été beaucoup rejeté, il a été beaucoup critiqué. Puis peut-être à cause des persécutions, la peur d'être persécuté, il a pas élaboré sur les détails de sa vie.
Je veux dire, il a pas dû vouloir vraiment parler de toute la négativité qu'il a vécue.
Non, exactement.
Il voulait pas mettre l'accent là-dessus, j'imagine.
Exactement.
Freud a été plus connu lorsqu'il est devenu neurologue, surtout.
Ouais, c'est ça. Freud, il était très cultivé. Il a parlé plusieurs langues, dont l'allemand, le latin, l'anglais, le français, l'espagnol et l'italien, et j'en passe.
Wow!
Donc, on peut dire, etc. Puis, c'est ça, comme qu'on disait, ben, il a pas eu beaucoup d'amis durant son enfance, mais comme que Valérie disait, c'est à 17 ans qu'il a été faire ses études en médecine. Puis, c'est là que il était pas plus populaire, mais pas avoir beaucoup d'amis. Ça lui a permis de se concentrer sur ses études, puis il a été diplômé en 1881, donc à l'âge de 25 ans, il a été officiellement médecin.
Ok, puis qu'est-ce que ses études en médecine lui ont permis de découvrir?
Quand il a commencé en médecine, lui, il a reçu des patientes. C'est sûr que dans ce temps-là, aller voir un médecin, surtout que là, lui, il expliquait des théories psychologiques, ça a commencé à émanciper.
Des nouvelles théories psychologiques.
Exactement. Ouais. Donc, c'était mal vu d'un sens dans ce temps-là. Donc, il recevait souvent des jeunes femmes de la bourgeoisie. Donc, tout le monde dans ce cercle-là se connaissait. Puis, il voulait pas que quelqu'un sache de la bourgeoisie que, oh, je vais voir un psychologue, peu importe. Donc, il allait voir le petit médecin juif. Puis, c'est là que, dans le fond, il y a eu des patientes hystériques. Donc, il y avait des troubles expressifs qu'on n'était pas capable de résoudre avec la médecine traditionnelle qui était présente dans ce temps-là. Donc, il y avait pas de lésions, de plaies visibles. C'est là qu'il s'est amené à se questionner, puis à étudier là-dedans, puis qu'a émergé dans le fond les théories freudiennes en psychanalyse. Donc, il y avait des lésions nerveuses internes qui étaient affectées, donc là de l'hystérie qui était dans le mental.
Donc, c'est le premier à avoir voulu guérir les gens par l'intérieur.
Exactement. On peut dire ça de ce sens-là. C'est là qu'il a découvert l'inconscient. Donc, en fait, les deux termes, l'inconscient et la conscience, ça vient de Freud. L'inconscient qui est comme le plus grand espace mental, c'est là que venait l'hystérie, c'est ce qu'on ne contrôle pas, ou des souvenirs, des désirs sexuels, même qui disaient, qui étaient refoulés dans cet espace mental-là, puis c'était vraiment nouveau dans ce temps-là, là. Personne n'avait parlé de ça avant. Puis la conscience, en fait, ça explique plus qu'est-ce qu'on assimile concrètement, directement à la seconde près, puis l'inconscient, ben il faut faire un effort pour amener le souvenir, ou ce qu'on voit pas.
Les rêves seraient dans l'inconscient.
Exactement.
Moi, j'ai souvent entendu dire que le psychanalyste, justement, se mettant en arrière de la personne pour le laisser, justement, aller vraiment dans le profond de ses pensées, c'est la thérapie par la parole.
Exactement. Avec le divan. Puis oui, c'est là qu'il y avait accès à cet espace mental que personne pouvait voir.
Pourquoi il a été autant critiqué? Parce que moi, quand tu me parles comme ça de ses théories, je trouve ça super intéressant puis c'est sûr, très complet.
Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus ouvert, dans le fond, avec toutes les nouvelles technologies, tous les avancements en médecine et tout. Dans ce temps-là, c'était pas la même chose. Il parlait beaucoup de sujets très tabous, donc les maladies mentales, les troubles psychologiques, c'était vraiment différent à la médecine traditionnelle qu'on pratiquait dans ce temps-là.
La sexualité aussi, j'imagine.
Exactement. Il a évoqué beaucoup de termes sur la sexualité. Il parlait d'homosexualité et tout. Dans son ouvrage « La science des rêves », ça a été son premier livre. Ça a été publié à grand public. Donc, le public, évidemment, l'a très mal pris, parce que dans ce temps-là, c'était très tabou. C'était un petit psychologue juif, en plus. Et ça a toujours resté. On le critiquait à cause de qu'est-ce qu'il disait, puis c'était vraiment vexeur là, pour le grand public. Ce livre-là parlait vraiment... Il faisait comme une expérience avec les rêves, justement, puis qui amenait sa théorie de l'inconscient, qu'on pouvait avoir accès à nos rêves, puis le monde ne le croyait pas. Puis c'est là que, dans ce livre-là, a émergé la théorie du « ça », puis le surmoi et le moi. Là. Donc le ça serait, on aurait comme un petit démon dans notre tête là, qui nous guiderait à faire des choses juste pour le plaisir, les désirs et tout. La libido rentre là-dedans, les pulsions. Et puis le moi et le surmoi, ça serait notre petit ange dans notre tête. Donc la raison, le raisonnement, donc puis être raisonnable.
La réalité aussi.
Exactement. Puis c'est ça. Ben dans le fond, Freud avec ce livre-là, la critique du public, ça a été qu'il a été comparé à Copernic. Copernic, dans le fond, c'est... un grand scientifique, un grand physicien qui a mentionné et affirmé que le soleil était au centre de l'univers puis que la Terre tournait alentour. Et dans ce temps-là, tout le monde croyait que c'était Dieu qui était au centre de l'univers. Donc, ça choque beaucoup les gens à cette époque. Puis, comme qu'on a dit aussi, l'homosexualité, il paraît traiter beaucoup de désirs sexuels. Faut se rappeler qu'à ce moment-là, l'homosexualité était illégale, même jusqu'en 1972. Donc, Freud a pris une chance en traitant de ces sujets-là. Mais ça a fait avancer les choses. Aussi, il y a eu... beaucoup de critiques par rapport aux médecins. Donc, les médecins traditionnels le reprochaient que ses théories manquaient de preuves. Sauf que Freud se défendait un peu en disant « Ouais, mais mes théories, c'est mental. Je peux pas comme le prouver avec une plaie directement. Tout ce qu'on peut prouver, c'est par les gestes non normaux, comme qu'on peut dire, des patients. » Mais les médecins le reprochaient toujours que « Ouais, mais on voit pas vraiment... »
C'est plus des actes manqués.
Exactement.
Donc Freud a vraiment été avant-gardiste. S'il avait été là aujourd'hui, il aurait été super heureux de voir comment ses théories ont fait avancer la médecine.
Ah oui, effectivement.
Il était pas né dans le bon siècle.
Non.
Ses origines ont toujours eu un impact aussi sur la perception des gens.
Ouais, ben tu sais, ça l'a fait évoluer la médecine, la psychologie d'aujourd'hui là. Donc il était, oui, dans un sens, il était pas à sa bonne époque parce qu'il était pas mal critiqué, mais ça l'a amené une perte d'esprit à l'époque actuelle.
Ouais. Puis des progrès extraordinaires.
Exactement.
C'est le premier qui s'est intéressé aux femmes, qui a fait des écrits sur les femmes, n'était pas bien accepté.
Oui, il était ouvert d'esprit aux femmes, mais sa femme, sa fille, Anna Freud, il y avait beaucoup un cercle d'amis de femmes, des intellectuels, puis ils acceptaient.
Puis qui a osé parler des femmes aussi, parce que les femmes étaient presque considérées comme étant un objet.
Donc le petit juif qui parle de femmes à cette époque-là, puis qui parle d'homosexualité, c'était très tabou, il choquait les gens.
C'est sûr, j'en doute même pas.
Donc pour vous les filles, aujourd'hui j'ai un quiz du jour, le quiz freudien que j'ai appelé. Donc j'ai trois questions à vous poser, une chacune, puis c'est des questions à choix de réponse, donc c'est juste pour s'amuser un petit peu. Donc Maud, tu es la première. La première question est: Freud et sa famille étaient persécutés par quel régime politique de ce temps? A. Le fasciste de Mussolini. B. Le fasciste de Hitler. Ou C. Le communiste de Staline.
B. Le nazisme.
Exactement, c'est le fasciste de Hitler qui est justement, comme tu as mentionné, le nazisme. Comme j'ai dit plus tôt, Freud a dû déménager avec sa famille parce qu'il était juif, donc Hitler en avait beaucoup contre les juifs, puis il a dû déménager à Vienne à cause de ça. Bravo! Valérie, quel est le nom du désir sexuel inconscient chez l'enfant pour un parent de sexe opposé élaboré par Freud? A. La sexualité refoulée infantile. B. La libido phallique. Ou C. Le complexe d'Oedipe.
Le complexe d'Oedipe.
C'est bon! Le complexe d'Oedipe, en fait, ça fait référence avec la mythologie grecque. Puis, c'est ça, Oedipe était un petit personnage qui avait un désir sexuel. Il a fini par coucher avec sa mère, relation avec sa mère.
Des enfants aussi, puis il a tué son père.
Exactement.
Puis ça a été écrit par Sophocle.
Exactement. Fait que c'est là que Freud s'est inspiré du complexe d'Oedipe, donc pour expliquer sa théorie qu'un enfant avait un désir sexuel de tel âge à tel âge pour son parent, sexe opposé. Donc, Roxane, la dernière question.
Oui.
Où se situe la maison de Freud qui est aujourd'hui un musée? A. Au 19 Sessengasse. B. Au 19 Bergasse. Ou C. Au 19 Premergasse.
Tu m'en poses une bonne. je dirais A. 19
Sessengasse?
Oui.
Eh non.
Ah, bon.
C'est B, le 19 Bergasse. Ça, c'est la rue principale, puis le Sessengasse et la première gasse que j'ai dit. C'est des rues parallèles. Donc, ça se ressemble pas mal, mais t'étais prêt.
Parfait. Mais merci beaucoup pour tes questions. Tu nous en as appris beaucoup sur Freud.
Merci.
Maintenant, Maud, toi, tu peux nous parler de l'historique des industries autrichiennes?
En effet, ça a pas toujours été impeccable. Donc, après la Première Guerre mondiale, la République de l'Autriche a été privée complètement de ses industries. Donc, elle a beaucoup souffert au niveau des industries autrichiennes à cause de ça, parce qu'il y avait plus d'activité. Mais contrairement à ses voisins qui, eux, étaient puissants, l'Autriche a quand même été capable de se remonter puis de reprendre sur ses industries, et ils sont revenus un peu plus tard.
Puis, pourquoi l'industrie chimique est un secteur si important dans l'économie en Autriche?
C'est un secteur très important dans l'économie autrichienne, parce que les emplois les plus importants en Autriche sont liés à cette industrie-là. Cependant, en 2009, l'Autriche a subi une diminution dans ce secteur à cause de la crise économique. Cette crise-là, dans le fond, elle a affecté une bonne partie des pays européens. Ça représentait une diminution de 13,1% de chiffre d'affaires pour l'Autriche, qui est un gros chiffre quand même.
C'est énorme, oui.
Effectivement, en plus, l'industrie chimique équivaut environ à 10,6% de la valeur entière de l'industrie autrichienne. C'est assez important. Et les produits pharmaceutiques, comme le vernis, la peinture, l'encre, la colle, les lubrifiants, les fibres chimiques et plein d'autres domaines sont reliés à l'industrie chimique, donc c'est quand même une très grande partie de l'Autriche. Et dans l'industrie chimique, l'industrie pétrolière ainsi que pétrochimique joue un très grand rôle. Donc les gisements de pétrole et de gaz naturel sont situés entre Vienne et la frontière nord-est de l'Autriche et de la Basse-Autriche. L'industrie chimique autrichienne est principalement concentrée sur les secteurs cellulose, de l'azote ainsi que la pétrochimie. En effet, la pâte mécanique et la cellulose sont des matières premières de l'Autriche et ils permettent d'obtenir une gamme importante de fibres synthétiques qui, eux, aident à l'industrie textile qu'on va voir un peu plus tard. Et ça, c'est un centre de production important, la fibre chimique.
D'accord, donc je vois maintenant pourquoi l'industrie chimique est importante en Autriche. Tu as parlé de l'industrie textile, de l'habillement, qui se spécialise en Autriche. Dans le fond, c'est dans quel domaine qu'elle est le plus présente?
L'industrie est principalement à l'origine du travail de la laine qui, elle, est en honneur aux montagnes. Avec les années, la laine elle a été remplacée par le coton, puis plusieurs domaines sont, comme tu dis, présents en Autriche, comme les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, la mode des enfants pour les bébés, le linge de maison, les modes de sport et loisirs, les vêtements de travail, les tenues de travail, les chapeaux et j'en passe. Et environ 286 entreprises sont recensées dans l'industrie textile autrichienne. C'est un domaine qui emploie environ 12 000 personnes et qui exporte environ 80% de ses produits, qui est assez un gros chiffre, donc l'économie roule beaucoup à cause de ça. Et relié à cette industrie, il y a aussi l'industrie du cuir et de la chaussure. L'industrie du cuir exporte principalement à cause de sa bonne qualité pour les automobiles et aéronautique dans plusieurs pays.
D'accord, donc je vois que l'industrie du textile est très populaire auprès des autres pays qui veulent vraiment faire beaucoup importer. Puis je sais aussi qu'il y a l'industrie électrique et électronique qui est présente en Autriche, mais est-ce qu'elle est aussi importante que les précédentes?
En effet, elle compte environ 270 entreprises qui, elles, emploient 60 100 personnes environ. Ça joue un rôle important dans l'économie de son peuple. Principalement dans cette industrie, il y a l'électricité d'origine hydraulique. Donc l'hydroélectricité est créée à partir de l'exploitation des torrents alpestres. L'hydroélectricité, c'est dans le fond une source d'alimentation assez importante en Autriche parce qu'elle couvre les besoins de tout le pays en électricité. En Autriche, par contre, il y a un mélange de trois sortes de types d'énergie pour l'électricité. Il y a l'hydroélectricité, l'énergie fossile et la biomasse. Malgré qu'il y a trois sources d'énergie en Autriche, la principale, c'est vraiment l'hydroélectricité, parce qu'elle comporte plus de la moitié de la production d'électricité, soit 56,6%. C'est un chiffre assez énorme. Et l'Autriche utilise beaucoup de l'énergie fossile afin de produire son électricité. En effet, en 2011, elle produisait seulement 30,3% de l'électricité. Pour sa part, la biomasse est la troisième source de l'énergie. Elle est en troisième place parce que c'est elle qui produit le moins d'énergie. Elle représente environ 8,7% de l'électricité autrichienne.
D'accord. Puis je sais aussi qu'une industrie importante encore aujourd'hui, c'est l'industrie agricole. Combien de pourcents l'industrie agricole représente-t-elle l'Autriche?
C'est encore 5%. Donc, en effet, l'Autriche a environ 150 000 exploitations agricoles, dont 63 500 ont des bovins. Pour ceux qui savent pas c'est quoi des bovins, c'est un terme désignant des vaches, des bœufs, des veaux, des taureaux, etc. De plus, contrairement à ses voisins allemands, l'Autriche tient à garder le modèle agricole traditionnel. Cependant, grâce à ses nombreuses fermes d'élevage en Autriche, l'agriculture représente, comme je l'ai dit, 5% de la population autrichienne, et elle a de la chance de l'avoir. C'est un des premiers pays d'Europe à produire du lait biologique. En 2014, environ 15% de la livraison de lait d'Autriche est transformée en fromage ici, ce qui est assez un bon chiffre pour leur industrie.
Parfait! Puis je me demandais, en fait, c'est quoi la différence entre agriculture et agroalimentation?
L'agroalimentation transforme des produits vivants élevés prêts à la consommation. Plusieurs domaines sont reliés à l'agroalimentation, tels que la charcuterie, la pâtisserie, etc. En 2009, environ 5200 emplois produisant 1,8 milliard d'euros, ce qui représente environ 20% de la production nationale en Autriche, qui est justement aussi un impact dans l'économie. La différence, c'est que l'industrie agroalimentaire transforme les produits vivants, comme des plantes ou des fruits ou peu importe, pour les rendre consommables. Pour sa part, l'industrie de l'agriculture est la partie qui élève les animaux et cultive les plantes afin de fournir le matériel nécessaire à l'industrie agroalimentaire pour faire son travail et transformer ensuite les produits. Donc l'un ne vient pas sans l'autre car quelqu'un s'assure de la production et l'autre la transforme. Donc on peut pas transformer un produit si on ne l'a pas produit. Donc c'est pour ça que c'est pas la même chose, mais ils sont assez reliés.
Parfait. Donc je vois maintenant pourquoi l'Autriche a quand même une assez bonne économie, des industries très importantes.
Et toi, Roxane, parle-nous de ton article sur la culture.
Oui, donc moi, j'ai fait une recherche sur la culture en Autriche parce que, comme t'en as parlé au début, elle est quand même assez diversifiée. L'Autriche est un pays important dans le monde pour sa culture. Pour commencer, je me suis attardée à la langue. En fait, on pense toutes que les Autrichiens parlent seulement allemand. C'est vrai, en fait. 98% de ses habitants le parlent. Par contre, l'allemand en Autriche est très différent de celui d'Allemagne, puisqu'il comporte vraiment une prononciation différente puis un lexique différent. Donc, un Allemand, parfois, va aller en Autriche et va même pas comprendre ce que la personne autrichienne va lui dire, même si c'est de l'allemand. Aussi, les règles grammaticales puis la construction des phrases sont propres à la nation autrichienne. Par contre, l'allemand, c'est pas la seule et unique langue parlée en Autriche. Il y a quand même un 2% de gens qui parlent d'autres langues, comme le croate, le slovène, le hongrois. C'est toutes des langues qui sont officielles dans certaines provinces, parce que l'Autriche, autrefois, ça a été un empire multiethnique puis plurilinguistique. Donc, un tiers de la population de Vienne provient de descendants slaves, hongrois, juifs et italiens. Dans le fond, ça apparaît dans certaines provinces dans les langues qui sont parlées par les habitants, qui descendent de familles qui ne sont pas autrichiennes. Par exemple, dans le sud de l'Autriche, à Carinthie, 2 à 8% des gens parlent seulement slovène, puis au Burgenland, quelques milliers d'Autrichiens parlent seulement le hongrois, ils parlent même pas allemand. Donc ça paraît beaucoup par rapport aux statistiques sur les langues. En Autriche, la religion dominante, c'est très certainement le catholicisme, parce que 73,7% des gens sont pratiquants, puis ils sont majoritairement pratiquants pour l'Église catholique romaine. Donc ça, c'est la plus grande grande communauté religieuse du pays. Puis la deuxième plus grande communauté religieuse, c'est l'Église protestante luthérienne et réformée, avec 5% de fidèles. Ensuite, c'est les musulmans, qui sont les plus populaires, avec 6% de pratiquants, parce que la majorité des musulmans en Autriche, c'est environ 1,5 million de personnes, puis c'est toutes des immigrants récents. La plupart viennent de la Turquie. En fait, comme vous savez tous, en ce moment, il y a vraiment un phénomène de crise des migrants dans toute l'Europe. Ça amène vraiment des religions différentes. Puis en Autriche, ça amène beaucoup de musulmans. Donc, ça diversifie un peu la population. Puis, le reste des musulmans, soit environ 1 million de personnes, c'est des musulmans qui sont de longue date, qui sont issus de l'occupation d'une importante communauté musulmane qui est la Bosnie-Herzégovine. Ça date de 1878 à 1918. Donc, eux, c'est vraiment des descendants de familles musulmanes qui étaient là depuis longtemps. Il y a d'autres communautés religieuses en Autriche, comme les Témoins de Jéhovah, il y a les Juifs aussi, mais ils représentent moins de 1% de la population. Parce que, comme vous savez, la communauté juive a été très décimée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a plus de 65 000 d'entre eux qui ont été exterminés par les nazis en Autriche. Puis 120 000 se sont exilés. Donc, il y a vraiment plus beaucoup de Juifs en Autriche. Donc, ça, vous voyez que la population autrichienne est quand même un petit peu diversifiée. Ça fait qu'il y a plusieurs ethnicités. Il y a quand même 88% des habitants qui sont d'origine ethnique germanique. Mais il y a un 12% qui reste qui sont d'origine croate, hongroise, tchèque, slovaque ou rome. La population autrichienne est quand même très homogène puisque la majorité sont de la même origine, soit autrichien. Malheureusement, pour les personnes qui sont issues de minorités ethniques, la distinction de classe sociale qui se fonde sur l'ethnie et la profession est très présente en Autriche. Puis ça affecte les gens qui font partie d'une minorité ethnique. Les Autrichiens sont pas aussi ouverts d'esprit qu'on l'aimerait. Par exemple, les travailleurs qui sont immigrants, qui sont des réfugiés ou qui sont minoritaires sont perçus comme étant des gens qui sont inférieurs, qui appartiennent à des classes sociales inférieures. Puis les travaux que ces gens-là occupent ne voudraient jamais être occupés par les Autrichiens. Selon eux, c'est des travaux qui sont plus inférieurs, plus bas de gamme, avec des maigres salaires. Donc, les distinctions de classe sociale se font sentir en Autriche. C'est dommage. Qu'est-ce qui distingue aussi l'Autriche par rapport à sa culture sur une note un peu plus positive? C'est la musique. La culture musicale, en effet, a toujours joué un rôle très prédominant en Autriche. Des compositeurs que tout le monde connaît, ils ont laissé leur empreinte puis sont mondialement connus. Je suis certaine que vous connaissez tous Beethoven.
En effet, oui.
Mozart, toutes ces personnes-là ont œuvré en Autriche, plus particulièrement à Vienne. Puis Vienne s'est maintenant perçue comme étant le berceau de la symphonie à cause de ces grands musiciens-là qui ont œuvré là-bas. Puis de nos jours, il y a beaucoup d'artistes de musique qui performent à l'opéra de Vienne pour faire perdurer la tradition classique. L'opéra de Vienne est vraiment un des plus prestigieux du monde, puis c'est une des premières institutions culturelles de Vienne. En fait, la musique classique a encore sa place en Autriche, sauf qu'elle a quand même diminué parce qu'il y a beaucoup d'autres styles qui ont émergé avec le temps à cause de la mondialisation, puis parce que les gens changent tout simplement de style de musique.
Mais ça reste un patrimoine culturel quand même associé à l'Autriche.
C'est très important. Quand on pense à l'Autriche, on pense à la musique classique. Les gens aiment encore ça aujourd'hui, sauf qu'il y a quand même d'autres styles qui ont pris la place. Sauf que c'est vraiment encore important, comme tu dis, là. C'est une grande partie de la musique là-bas.
Un peu comme qu'on dirait les États-Unis avec leur country. Il y a différents styles de musique, mais le country est réputé pour
être propre à la
culture états-unienne.
Vraiment. Quand on pense à l'Autriche, on pense au classicisme. C'est indéniable. C'est encore très présent aujourd'hui. Mais il y a quand même d'autres styles qui sont apparus. Il y a longtemps, la musique folklorique est apparue puis a été retrouvée dans le milieu urbain et campagnard. Elle est née à l'époque où les gens devaient trouver des activités pour se divertir parce que la radio puis la télévision n'existaient pas. Donc les fermiers ont commencé à utiliser des instruments de musique pour s'occuper, pour passer le temps. Puis finalement, ce type de musique folklorique-là a pris de l'ampleur. Puis depuis le milieu des années 1980, ça a connu un grand essor en Autriche. Puis ça fait en sorte que cette musique-là, qui a commencé avec des fermiers, est encore présente de nos jours. La musique folklorique maintenant commence à s'inspirer des airs la musique pop. Donc, les arts traditionnels sont maintenant associés avec la culture musicale des jeunes. Ça rejoint donc beaucoup de gens. L'une des principales caractéristiques de la musique folklorique, comme vous savez tous, c'est quoi probablement? C'est le yodel. J'imagine que vous avez déjà tous entendu du yodel.
Non.
Yodel.
Non?
Non.
Peux-tu m'expliquer c'est quoi?
Yodelerie.
Exact. Ah, oui! C'est des sons faits avec la gorge. C'est un peu drôle, mais tellement. Ils appellent ça aussi la tyrolienne. En tout cas, pour répondre à ta question, c'est une technique de chant qui est très particulière, puis ça consiste à vocaliser des onomatopées, puis à passer rapidement de la voix de poitrine à la voix de la tête.
Ah oui, il paraît que c'est difficile d'avoir cette technique-là de voix, là, de son. Là.
C'est super difficile, mais là-bas, c'est vraiment populaire, puis je suis certaine que si tu demandes à n'importe qui, tout le monde est capable de faire.
Des années de pratique.
Oui, des années de pratique. Il y a un autre style aussi aujourd'hui qui est populaire en Autriche, c'est le jazz. Ça a connu vraiment un essor en 1950, puis c'est apparu principalement dans les bars. bars. Donc, c'est là-bas, si tu vas dans un bar en Autriche, il y a beaucoup de bars à jazz et c'est du jazz qui date de très longtemps, des années 1950.
Eh bien, ça me surprend parce que je pensais justement que seul jazz était dans la communauté noire des États-Unis, mais il y en a aussi, c'est populaire assez en Autriche, oui. Tu le mentionnes.
Oui, les Autrichiens, en fait, ouais, ils aiment beaucoup le jazz, puis exactement, c'est très populaire puisque je le mentionne. Ça a pris beaucoup d'ampleur en 1972 à cause de l'ouverture du Lendl. C'est un endroit légendaire à Vienne aujourd'hui. Puis il y a beaucoup d'endroits aujourd'hui où c'est possible d'assister à des concerts de jazz. Puis le plus populaire, c'est le Festival de jazz de Vienne. Ça attire chaque année des dizaines de milliers d'auditeurs. Donc ça prouve que c'est très populaire. Puis le dernier style de musique qui a beaucoup connu un essor de nos jours, c'est la musique électronique, qui est totalement le contraire de la musique classique. C'est extrêmement différent. Puis, depuis les années 90, il y a l'école viennoise du dub, ça s'appelle. Ça regroupe plusieurs genres de musique électronique. Puis, ça a vu le jour à cause de deux DJ qui sont maintenant très populaires là-bas. Il y en a un qui s'appelle Peter Crowder, puis Richard Duffmester. Puis ça, dans le fond, c'est surtout populaire auprès des jeunes. La musique électronique, là, il y a beaucoup de festivals, justement. En Europe, il y a le festival qui s'appelle Tomorrowland. Ça attire beaucoup, beaucoup d'Autrichiens, puisque c'est prêt. Puis c'est ça, aujourd'hui, ça a connu un grand essor.
C'est pas mal partout dans le monde, parce que je regarde ici au Canada, puis on en a aussi beaucoup.
Vraiment, la musique électronique a connu un essor extrêmement gigantesque, je pourrais dire, partout, partout dans le monde occidental. Puis finalement, la dernière chose qui distingue la culture autrichienne des autres, c'est sa littérature, parce qu'elle est passée par un très grand nombre de courants au cours de l'histoire. Ça a été marqué principalement par les oratorios et les lieds. Je vais vous expliquer tantôt c'est quoi. Mais pour commencer, c'est le mouvement romantique allemand qui a provoqué la naissance de la littérature autrichienne au 19e siècle. Donc ça fait en sorte que beaucoup de romans actuels aujourd'hui, ils ont des thèmes comme la passion, l'amour, la mort, les relations humaines, le déclin, la tristesse, puis beaucoup de thèmes comme ça reliés au courant romantique. Puis aussi, la littérature autrichienne, elle a connu un courant révolutionnaire, un courant réaliste. Elle a aussi connu un moment où les écrits permis étaient seulement ceux qui vantait Hitler puis qui était pour le nazisme. Finalement, après la guerre, les auteurs sont devenus vraiment libres d'écrire sur tout ce qu'ils voulaient. Donc, on a vraiment des écrits en Autriche qui passent par des écrits pro-Hitler, des écrits romantiques, des écrits réalistes. C'est vraiment très diversifié. Puis, pour vous expliquer c'est quoi l'oratorio, dans le fond, ça c'est très présent dans la littérature et dans la musique autrichienne. C'est une œuvre qui est lyrique et dramatique, qui est représentée sans mise en scène, sans costume puis sans décor. C'est vraiment très basique. Puis, sa narration est vraiment souvent accompagnée d'un orchestre. Puis aussi, un lied, comme je vous en ai parlé, c'est un poème germanique qui est chanté par une voix puis qui est accompagné souvent d'un piano ou d'un ensemble d'instruments. Donc, l'oratorio et les lieds peuvent autant être catégorisés dans la littérature que dans la musique. Puis, c'est pour toutes ces raisons-là que l'Autriche a vraiment une culture à part, puis qui est connue dans le monde pour certains aspects en particulier.
Elle est assez diversifiée.
Oui, c'est très diversifié, exactement. Parce que c'est différent de ce qu'on peut retrouver un peu partout. Par exemple, les oratorios, on connaît pas ça Canada. Donc, c'est particulier. Puis, maintenant, ça met fin à la première partie de notre podcast. On a un petit spécial pour vous aujourd'hui. On va vous présenter rapidement quelques lieux qui devraient vraiment être vus si jamais vous décidez d'aller faire un séjour en Autriche. Premièrement, on a beaucoup parlé de Freud. Donc, un détour qui serait à faire, ce serait la maison de Freud.
La question que je t'avais posée, quel est l'endroit où il y a la maison de Freud? C'est au 19 Bergasse, en Autriche. Ça s'appelle The Sigmund Freud Museum. Donc, en effet, c'est la maison de Freud exactement telle qu'elle. Telle qu'elle, c'est sûr qu'on l'a transformée un peu en genre de musée. Il y a une bibliothèque aussi qui comporte plus de 35 000 volumes en psychologie. Donc, c'est très enrichissant. C'est quand même, c'est impressionnant. C'est vraiment exactement sa maison. Sa maison était divisée en deux étages. Donc, c'est comme deux logements. Il y avait un logement que c'était pour ses traitements en psychanalyse. Donc, il y avait vraiment son bureau, le fameux sofa, divan.
Pour ses interventions cliniques.
Là, exactement. Vraiment. Donc, lui, il y avait vraiment une partie de sa maison. Donc, il travaillait à domicile, comme qu'on peut dire. Puis, son autre partie, c'était vraiment sa maison, son domicile privé. Dans ce musée-là, il y a beaucoup d'images, d'archives, de sculptures, de peintures très populaires en Autriche. L'architecture, là-dedans, ça doit être très riche. Puis, il y a beaucoup de photos de famille de Freud. Donc, comme j'avais mentionné avec sa fille Anna Freud, qui était très populaire aussi. Donc, on peut se remémorer dans ce temps-là, c'était quoi?
Parce que Anna Freud, elle a continué les théories de Freud, si je me trompe pas.
Exactement.
Ok, parfait.
Ça a été pas mal choquant parce que là, justement, elle était une fille qui émancipait les théories de son père qui était...
Avec des origines juives.
Exactement. Donc, de génération en génération. Mais bref, c'est ça, dans ce musée-là, on peut tout voir ça, cette histoire-là, les photos de famille. Donc, ça doit être très intéressant.
Parfait. Puis aussi, quelque chose pour les amateurs de nourriture. Je crois que les pâtisseries et les cafés en Autriche sont très populaires.
En effet, les pâtisseries sont incontournables à Vienne. Donc, je vais vous en présenter deux. Il y a la confiserie Demel, qui est une confiserie à Vienne très populaire. Il paraît qu'il y a des confiseries très sucrées, typiquement autrichiennes, européennes. Donc, c'est vraiment différent d'ici, là. Ça goûte vraiment pas nos muffins sucrés.
Non, c'est ça.
Donc, c'est très riche. Puis, il y a l'hôtel Sacher. Ça, c'est vraiment un hôtel très riche, encore une fois. Mais c'est un hôtel. C'est là où que le gâteau Sacher. C'est un gâteau au chocolat. Là, très populaire, même ici au Canada. Et ça a fait le tour du monde. C'est un des gâteaux les plus populaires. Puis, ça vient de cet hôtel-là. Donc, je pense que c'est un incontournable à aller visiter, aller déguster une petite bouchée.
Manger un plat typique. Où est-ce qu'il a été créé?
Exactement.
Ça donne faim. Puis maintenant, quelque chose aussi de très présent en Autriche qui reflète vraiment l'histoire très riche de ce pays, c'est les châteaux. Donc, vous devez vraiment faire un détour pour visiter un château si vous avez la chance d'aller en Autriche. Puis Maud, est-ce que toi t'en connais un?
Oui, je connais le château Altenau, qui maintenant est appelé le château Mirabel. Donc, en 1606, l'archevêque Wolf Dietrich von Rathenau, désolé, moi aussi mon allemand n'est pas
au point,
génial, il a fait construire en dehors des murs de la ville un château nommé Altenau en l'honneur de Salomé Alt. En retour, celle-ci lui a donné 15 enfants pour lui prouver l'amour qu'elle avait pour lui. Donc, ça prouve que la relation qu'elle avait avec l'homme d'église n'était pas uniquement platonique. Et le château Altenau fut renommé Mirabel par son successeur Marcus Siticus von Hohenheim. Et le jardin Mirabel comprend également une orangerie qui est assez incontournable aussi. Donc les orangers et les citronniers incarnaient pendant la période baroque une métaphore florissante pour la vertu princière. Aussi dans le château un incontournable, c'est le jardin des nains, qui est une nouveauté à l'époque. Elle a connu un succès triomphal et fait beaucoup d'émules par la suite. Même ceux qui n'aiment pas principalement les nains de jardin doivent admettre que l'habile agencement des nains en marbre n'est pas dénué d'intérêt. Aussi, dans ce château-là, une salle vraiment importante, c'est la salle des marbres, qui autrefois était la salle de réception des archevêques qui accueillait le père de Mozart, comme l'a justement dit Roxane plus tôt. Et celui-ci venait avec ses enfants qui, eux, jouaient beaucoup de musique à cet endroit-là. Et maintenant, cette salle-là est toujours existante et c'est une des salles les plus réputées pour les mariages au monde. C'est vraiment magnifique, ceux qui sont vraiment des fans, qui veulent vraiment se marier. C'est une des salles les plus belles pour se marier encore aujourd'hui.
Ça doit coûter très cher, par contre.
J'en doute même pas, je veux pas voir la facture.
Puis si j'ai bien compris, tu nous as dit qu'il y avait un jardin de nains de jardin.
Effectivement.
Ça doit être assez spécial pour un château.
C'est original.
Parfait. Merci beaucoup pour cette description. Puis toi, Valérie, tu connais un autre château populaire en Autriche parce qu'il y en a tellement.
Ouais, il y a le château de Schönbrunn. Le château se situe assez proche de la ville de Vienne. La ville a décidé de l'inclure dans les monuments faisant partie de la capitale. C'est un musée, c'est un palais de réception et des logements pour des fonctionnaires. La décoration de la petite et grande galerie de l'étage noble a été faite en honneur du règne de Marie-Thérèse, qui a fait partie de la famille des Habsbourg. Et Jean-François-Joseph a vécu constamment dans ce château. Donc, la famille des Habsbourg a beaucoup vécu dans ce château. Il y a 5 choses à faire dans ce château. La première, c'est d'assister à des concerts de musique classique. Comme que tu parlais tantôt, il y a beaucoup de musique classique. Ils proposent quotidiennement des récitals de Mozart et de Strauss. On peut explorer le domaine. On peut même payer pour faire un tour de train panoramique pour visiter tous les jardins, qui durent environ 55 minutes. Il y a beaucoup de cafés, donc on peut manger. Il y a 9 cafés au château. Les adultes peuvent aller manger quelque chose ou
boire un café.
Boire un café, c'est ça.
Je pense que ça vaut le détour. Finalement, moi, je pourrais vous parler pour les amoureux de la nature puis de l'histoire d'un petit village qui s'appelle Alstadt. En fait, c'est vraiment un village qui respire l'histoire, qui date de 7000 ans. C'est un village qui borde le lac qui porte le même nom, puis qui héberge la plus ancienne mine de sel du monde, qui a été exploitée depuis le néolithique, donc ça fait vraiment longtemps. C'est un village qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est resté très paisible, puis c'est très romantique pour les amoureux. Puis les fenêtres et balcons des maisons sont toutes envahies de fleurs. Les maisons sont bâties sur des pilotis, puis il y a des bateaux de pêche en quantité industrielle qui voguent sur le lac, donc ça fait vraiment un charme du village. Puis pour les amateurs de lieux sombres et lugubres, l'ossuaire de l'église renferme plein de crânes centenaires qui sont peints depuis plusieurs couleurs. Donc, pour ceux qui aiment un peu l'horreur. Puis, qu'est-ce qu'il y a à ne pas rater dans les environs? C'est la grotte de glace géante et la grotte du mammouth qui sont dans le massif de Dachstein. Puis, pour les amateurs de nature, dans le fond, le village est entouré de montagnes magnifiques. Donc, il peut avoir des possibilités de faire des très belles randonnées. Finalement, ce village-là est connu pour abriter le site de l'âge du fer, qui est issu de la civilisation à laquelle on a donné son nom, puis qui a livré près de 1000 tombeaux datant de plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment un tout petit village, mais qui est super riche en culture, en histoire, puis en nature.
Donc, une fois de plus, l'Autriche montre encore qu'elle est assez diversifiée dans pas mal tous les domaines, autant macabre que romantique.
Exactement, dans le même village, vous pouvez voir des belles auberges super romantiques, puis des crânes centenaires peint de couleurs bizarres.
Mais au moins, ils ont
peinturé. Ouais,
c'est ça, exact. J'irais pas là-bas quand même.
Moi, je ferais les 4 lieux qu'on vient de vous décrire, là, puis je pense que vous auriez des très bons souvenirs de voyage à raconter à votre famille. Donc, c'est ça qui conclut notre podcast d'aujourd'hui. Merci à tous d'être encore fidèlement à l'écoute cette semaine. C'est donc sur cette chronique touristique qu'on conclut notre podcast d'aujourd'hui. Et un merci spécial à Valérie, Maude et Valérie pour nous avoir partagé leurs connaissances. Ça a été vraiment intéressant de vous entendre, les filles. Vous avez vraiment fait des recherches complètes et pertinentes.
Merci à toi.
Ça fait plaisir. Puis, on espère vraiment que ce podcast vous donnera le goût d'aller visiter l'Autriche. Parce que pour ma part, avec tout ce que j'ai entendu, j'irais bien visiter ce pays.
Je crois que t'es pas la seule.
Non, hein? Merci beaucoup et bonne journée.